Et elle n'a pas manqué, notre petite Claire n'a pas manqué de boire, juste à ce moment-là. Et continue en disant, le lendemain, j'ai retrouvé du travail. Vous savez quoi? Comme ramoneur. Que Dieu bénisse les ramoneurs, j'en connais deux à Berne, etc., etc. Merveilleuse histoire du chemin de la foi. Et il conclut en disant, vous savez que dans le psaume 23, il est dit que l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Eh bien, les verts pâturages, ce sont les difficultés de la vie. Et quand on va manger de l'herbe dans ces prés-là, on devient gras. Alors, ce sont des exemples, ce sont des modèles, ce sont des grands professeurs de vie, de marche de la foi. Nous ne sommes pas souvent, et peut-être même jamais, nous n'avons été qu'un d'entre nous dans ces extrémités. Mais ça vaut pour le principe, savoir se fier à Dieu. Et ces hommes, quoique morts, nous disent, enfin c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui nous dit à propos d'eux, imiter leur foi, pas leurs actes. Ben non, pas leurs actes, nous ne sommes pas dans la même situation forcément. Mais imiter leur foi, c'est-à-dire de se confier en Dieu, de se fier à Dieu. Alors c'est vrai que cette réunion peut être un peu décisive pour nous, bon à tout âge, mais enfin peut-être spécialement pour les jeunes, dans les circonstances que nous allons vivre. Bon, pour le moment, les vacances, un petit peu, c'est des exercices un petit peu en sommeil, mais vous allez voir à la rentrée, ça va se reposer. Les circonstances vont nous retomber dessus. Et qu'est-ce que nous allons décider? Marcher avec notre propre raisonnement, à la débrouille, comme les incroyants qui ne connaissent pas Dieu, ou alors décider que nous allons nous fier à Dieu. Encore une fois, c'est un chemin difficile, mais je crois que c'est la voie royale. Je ne poserai qu'une question. Quelqu'un qui s'est fié à Dieu pour son salut et qui a passé toute sa vie à se fier à Dieu dans les circonstances de la vie, que ferait-il devant le grand passage, sauf de se fier à ce même Dieu? Je laisse la question posée. Y aurait-il une autre voie que celle de se fier à Dieu? Donc, deuxième gond, l'espérance. L'espérance, c'est pour les vieillards des comptes. Et comment expliquer que chaque jour, dans notre beau pays de France, il y a 36 personnes qui désespèrent de vivre, et parmi eux, beaucoup de jeunes. Sans vouloir me lancer dans c'est un développement philosophique, je dirais qu'un être humain, je crois qu'un être humain ne peut pas vivre sans espérer. Et justement, quand on n'espère plus, quand on désespère, on n'a plus de raison de vivre. Je pense à cette jeune fille américaine qui avait tout, elle était dans une famille aisée. Alors, piscine à l'extérieur, jacuzzi à l'intérieur, les vêtements à volonté, des sorties, enfin tout ce qu'elle désirait, cette jeune fille. Et un jour, elle a fait une tentative de suicide. Et après, son père est pleuré et lui a dit, « Mais enfin, ma fille, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas marché. » Elle a répondu, « Je ne sais pas. » Elle ne savait pas. Mais si son père avait été chrétien, il aurait su qu'il manquait à sa fille une espérance, une perspective. Il ne faut pas dire que l'espérance, c'est pour les vieillards. Les jeunes en ont besoin aussi. Alors peut-être que le sujet de l'espérance, je le diviserai en deux parties, l'espérance pour l'au-delà, bien sûr, c'est ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, mais aussi l'espérance au quotidien. Et les épîtres sont pleins de mentions de l'espérance chrétienne. Je ne l'ai pas dit pour la foi, mais pourtant cette expression « foi chrétienne » et « espérance chrétienne » me dérange un peu, parce que la foi et l'espérance ne sont pas typiquement, fondamentalement chrétiens. Ça a existé, la foi et l'espérance ont existé bien avant l'ère chrétienne. Oui, la foi date du chapitre 3 de la Genèse, et puis tous ces héros de la foi qui ont vécu avant l'ère chrétienne. Et puis l'espérance, bien entendu, par exemple, Éphésiens 1, quand l'apôtre Paul dit « Nous, les Juifs, nous avons espéré à l'avance dans le Christ ». L'espérance, ce n'est pas la prérogative de la période chrétienne, mais enfin bon, on est dans cette période, donc on dit la foi et l'espérance chrétienne. Et les épîtres sont pleins de ces références à l'espérance. Quelle chose merveilleuse que l'espérance. Justement, sans espérance, on ne peut pas vivre. Et il y a toutes sortes d'espérances. Comme d'ailleurs la foi, c'est quelque chose de très répandu, qui n'est pas fondamentalement ni chrétien, ni même religieux. Quand on est petit, on espère être grand. Quand on est... Bon, et après l'enfance a ses espérances, on espère recevoir un beau cadeau à Noël, on espère ceci, cela, et puis quand on est adolescent, c'est la grande période des grandes espérances, on espère rencontrer quelqu'un qu'on va aimer, l'âme sœur, le prince charmant, on espère décrocher ce diplôme, on espère réussir son permis de conduire, on espère décrocher cet emploi, et puis après on espère avoir une promotion dans le poste, etc. On espère pouvoir payer la maison, et puis, etc., ou la voiture, et puis après quand on est fatigué de cette vie active, on espère la retraite, et puis quand on est en retraite, on espère ne pas aller en maison de retraite, etc. Notre vie est remplie. Et puis même la maîtresse de maison, elle a des invités à midi, elle espère que son rôti sera cuit à point, que son gâteau ne sera pas brûlé, etc., etc. Je pourrais continuer. Notre vie est un tissu d'espérance. C'est pour ça que je dis, quand on cesse d'espérer, on cesse de vivre. Mais vous avez compris que ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. Encore une fois, le gond tout seul ne veut rien dire. Ce deuxième gond ne veut rien dire. Mais il faut qu'ils soient rattachés à quelque chose de solide. Parce que toutes ces espérances dont je vous ai parlé là, elles peuvent être frustrées. On peut ne pas rencontrer l'âme sœur, on peut, le rôti peut être brûlé, etc. Mais il faut savoir en quoi, en qui est notre espérance, sur quoi le gond est fixé. Et la Bible justement nous apprend sur qui nous pouvons espérer. Et l'apôtre Paul ne veut pas que les choses soient imprécises. Alors, dans la première épître à Timothée, dans les premiers versets, il dit « Jésus-Christ, notre espérance ». C'est une personne, notre espérance. Nous allons vers lui, et lui vient à nous. Les incroyants, ils n'ont que la tombe devant eux. Et l'avenir, c'est un mur, c'est le noir, c'est un trou. Pas d'espérance. Quelle différence avec le chrétien ? Le chrétien, il n'est pas plus fort que les autres dans la vie. Ce n'est pas la porte, la pauvre porte, ma pauvre vie qui est secouée par les gens, par les circonstances. Non, mais j'ai un gond, et un gond fixé au bon endroit. Jésus-Christ, notre espérance. C'est pas clair? Alors, bien sûr, il y a aussi ce en quoi nous espérons, qui est relié à notre Seigneur. Quand il a dit Jésus-Christ, notre espérance, on a la globalité de l'objet de l'espérance. À côté, il y a un détail, le détail, par exemple... Nous espérons dans la résurrection. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité au matin de Pâques. Tout est relié à lui. Nous espérons dans l'enlèvement des croyants. Nous espérons dans un événement. C'est toujours relié à Dieu. Et ça, c'est une fixation solide. Moi, je peux être dans ma vie comme cette porte battante. Je me sens faible. Oui, mais encore une fois, si mon gond, si mon espérance est en Dieu, ça va aller. Même si ma porte est secouée. Alors je lis un verset dans les Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Or notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. Vous voyez, même s'il y a une bizarrerie grammaticale, peu importe, on voit l'unité des personnes divines pour nous aimer. Et pour nous avoir donné une consolation éternelle et une bonne espérance, par grâce. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit de la saisir, cette espérance proposée. Donc nous, elle est proposée devant nous, on la saisit. Je vais peut-être un peu me contredire, mais pas tout à fait. L'espérance est pour les vieillards. Mais bien sûr que l'espérance prend du poids quand on vieillit. Bien sûr. Et je le sens, moi. Et parfois, peut-être, dans les réunions, c'est un peu lourd pour les jeunes, par exemple, toute une réunion sur l'avenue du Seigneur. Oui, les frères et sœurs âgés se délectent. Mais oui, quand on est âgé, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que l'enlèvement, que l'arrivée près du Seigneur? Mais bon, et c'était peut-être le cas dans notre assemblée locale. Et un frère âgé qui m'a dit plusieurs fois, tu sais, la vieillesse est lourde. Et après la réunion... où l'espérance avait tenu une grande place, il a raconté une petite histoire, on peut se le permettre dans une petite assemblée, une petite église locale, c'est un peu le charme de la petite assemblée. Il a raconté que certaines fois, il se mettait sur son balcon, en face des collines, en face du Vercors, et il tendait les mains. « Oh Seigneur, si tu surgissais là, dans ce moment, les collines, derrière les collines, oh si tu surgissais Seigneur. » C'était émouvant de l'entendre. Ça montre comment, quand on est âgé, l'espérance. Quelque chose de merveilleux. Et un peu plus tard, je me suis penché vers lui et je lui ai dit, frère, est-ce que c'était votre attitude à 20 ans? Il m'a dit, bien sûr que non. Mais pourtant, je suis persuadé que quand on a 20 ans, même 18, l'espérance, c'est aussi très très important. Mais peut-être qu'à cet âge-là, justement, on a des grandes espérances terrestres et on ne réalise pas la beauté de l'espérance. Être avec le Seigneur. Qui peut décrire? Qui d'entre nous peut décrire la béatitude que ça va être de près du Seigneur ?